Bien sûr qu'une entreprise est là pour générer du profit, hein. On est bien d'accord qu'il n'y a pas que de la poésie, hein. Il y a des mathématiques dans l'entreprise, mais c'est qu'est-ce qu'il y a au-delà, voilà. Je prends du temps, ça me prend un temps fou de travailler, c'est pas ma boîte en plus, donc qu'est-ce qui va faire que je viens, bah, c'est... Il faut retrouver une authenticité, mais ça passe beaucoup par les gens, tu vois. Par des patrons qui parlent vrai, qui sont des visionnaires, des vrais capitaines de navire, qui embarquent authentiquement les gens.
Bienvenue dans Harmony Inside, la culture en action, le podcast qui t'aide à développer une culture forte pour réussir ta croissance. Je m'appelle Hélène de Saint-Front, je suis harmoniste d'entreprise au sein du collectif d'indépendants Biharmoniste. Et ce podcast te permet de découvrir ces entreprises pépites qu'on a la chance de côtoyer et qui ont su développer, mettre en action avec succès une culture authentique. On te recommande bien sûr de t'abonner et d'écouter d'autres épisodes pour découvrir toujours plus de dirigeants et dirigeantes harmonieux. Car c'est avec eux que se réinvente le monde du travail en mieux. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir au micro une femme d'exception, Catherine Barba. Bonjour Catherine.
Bonjour Hélène.
Catherine, c'est la sérielle entrepreneuse business angel multicasquette qu'on ne présente plus, qui a cette énergie pétillante et contagieuse. Et moi, tu me fais penser à une fée clochette du business. Et aujourd'hui, on va parler en particulier d'Envie, ta dernière aventure entrepreneuriale, l'école qui permet à des indépendants de réussir à être entrepreneurs de soi. Et je précise que c'est un jour un peu spécial parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Catherine. Donc, merci de nous faire ce cadeau d'être avec nous.
Merci à toi. Merci.
Alors, pour t'introduire, moi, j'aime bien commencer par des questions métaphores. Alors, on va l'adapter au jour. Si tu étais un cadeau d'anniversaire, tu serais lequel et pourquoi ?
Si j'étais un cadeau d'anniversaire, je ne serais pas un objet. Je serais une expérience. Je serais du lien, en fait. Tu vois, peut-être un dîner avec des copains ou en famille, un week-end partagé. Je serais un moment de partage.
Super, voilà. Merci beaucoup.
C'est la seule chose qui compte au fond. Tu vois, c'est ce qu'on partage, ce qu'on vit. Nous sommes des êtres de relation.
Et d'expérience. Super.
Et d'expérience.
Alors, si on parle un peu justement de ton parcours. En parlant d'expérience, toi, tu as beaucoup travaillé sur la notion de la transformation, justement, comment ces expériences, en particulier dans le monde du travail, elles évoluent. Donc, la transformation digitale, la transformation managériale, maintenant même la transformation des métiers. Cette envie de participer à des transformations, d'où est-ce qu'elle te vient ?
Je sais pas, mais c'est vrai que ça, c'est un fil conducteur dans mon histoire. Tu as raison. J'aime bien explorer, je crois. J'ai probablement comme toi cette curiosité, tu vois, d'aller regarder ce qui est nouveau et puis la capacité à changer, à aller vers le mieux. Moi, c'est vrai que ça m'a toujours fascinée. Donc, je pense que c'est lié à une caractéristique qui est la mienne, c'est la curiosité.
Et alors, dans tes explorations, donc peut-être tu peux nous dire quelques mots sur ton parcours et tes différentes expériences d'entrepreneuriat, parce que tu as été une vraie slasheuse, hein, avant l'heure. Tu as eu la chance de travailler... Ouais, vas-y.
Non, je sais pas. Slasher, ça veut dire qu'il cumule plusieurs, c'est qu'il fait dans la multi-activité. Oui, remarque, c'est ça. J'ai toujours été dans la multi-activité, en fait. Tu as raison.
Aujourd'hui, en tout cas.
Enfin, aujourd'hui, je suis à 3000% sur ma nouvelle boîte Envie. Hein. Mais je suis aussi au board de Renault. Et j'ai investi dans un certain nombre d'entreprises. Et donc, je continue à suivre mes participations. Mais quand même, ce qui m'occupe le plus professionnellement aujourd'hui, c'est la boîte que je suis en train de développer depuis un peu plus d'un an. On en reparlera. Et auparavant, en fait, donc ça, c'est, je suis dans la formation, c'est une école, hein, tu l'as dit. Mais auparavant, j'ai travaillé plus de 20 ans, 25 ans dans le digital, dans la tech, dans l'e-commerce. Et j'ai créé 3 entreprises, j'en ai revendu 2. Donc une première, c'était un site de cashback pour encourager... les gens à acheter en ligne, que j'ai revendu à mon principal concurrent. J'ai créé une agence de création de site e-commerce, de stratégie digitale que j'ai revendue à VP. Et je me suis associée avec les fondateurs. Et je suis partie 5 ans aux États-Unis et j'ai créé un observatoire sur la transformation des entreprises. J'allais observer un peu justement qu'est-ce qui fait le sel, qu'est-ce qui fait le ressort d'une entreprise qui se réinvente plus vite qu'une autre. Donc voilà, ça c'était le fil de mon histoire. 3 boîtes dans l'e-commerce, la tech, et puis une dans la formation, la dernière.
Et du coup, justement, cette expérience aux US, est-ce que tu en as appris? C'est ça qui t'a donné l'envie de créer envie?
Parce que quand je suis rentrée des États-Unis, c'était en plein Covid 2020-2021. Moi, je pensais de retour, tu vois, à nouveau me rapprocher de l'écosystème du digital, de l'e-commerce, la French Tech. Et puis continuer à investir. Et en fait, littéralement, l'idée d'envie m'est tombée dessus. C'est-à-dire qu'à la faveur des lectures que j'ai faites sur la transformation du travail, sur l'aspiration des Français à travailler autrement, tout ce que toi, tu connaissais déjà bien avant moi, sur tout ce qui est la création d'entreprises individuelles, la percée du freelancing et des indépendants, j'ai fait tout un tas de benchmarks sur ce qui existait. Je me suis dit, oh, il manque l'école des indépendants. Donc, c'était comme une évidence, tu vois, une nécessité pour moi de faire cette école. Et je me sens absolument à ma place.
Effectivement, c'est un vrai besoin et une tendance qu'on observe. C'est vrai que nous, on s'est lancé il y a 10 ans, on était un peu tout seul. Et aujourd'hui, il y a plein d'indépendants qui viennent frapper à la porte du collectif en disant « Ah, j'ai envie de me lancer en tant qu'indépendant, je cherche un collectif, ah, j'ai envie d'être indépendant. » Et c'est fantastique de pouvoir effectivement accompagner toutes ces personnes qui souvent font un saut dans l'inconnu. Et tu vas nous parler un petit peu plus du coup de comment vous les accompagnez. Alors juste, puisqu'on va parler de culture d'entreprise, hein, en particulier celle d'Envie, mais aussi celle de toutes les autres entreprises que tu as pu connaître, quand je te dis culture d'entreprise, qu'est-ce que ça évoque pour toi ?
Le mot qui me vient en tête, c'est récit. Pour moi, une culture d'entreprise, c'est un récit. C'est l'histoire que tu racontes, en fait. C'est ce qui nous lie. J'ai beaucoup travaillé sur la diversité quand j'étais aux États-Unis, notamment. Mais au fond, la vraie question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui fonde le sentiment d'appartenance ? Tu vois, comme dans une famille, un groupe de potes, quelque chose qui est fort, qui n'est pas simplement un lien cérébral, mais aussi un lien du cœur. Donc, cette culture, ce sont des rituels, des règles, des pratiques inclusives, de la reconnaissance qui font que tu te sens bien, tu te sens chez toi, t'es aligné avec ton axe de vie, en fait.
Et alors, justement,
donnerais, toi, comme définition de la culture d'entreprise ?
Nous, ce qu'on dit, c'est les bords du terrain de jeu. Dans lequel tu vas pouvoir du coup jouer, c'est le terrain de jeu et les règles du jeu. C'est-à-dire, il faut les 4 coins du terrain. C'est ta raison d'être, tes valeurs, ton ambition, où est-ce que tu veux aller, et puis ta proposition de valeur. Qu'est-ce que t'apportes finalement concrètement à tes clients. Et de là va découler un cadre super clair dans lequel chacun peut jouer. Et peut jouer comme il le souhaite. Nous, c'est ça qu'on met dans la culture, et je te rejoins tout à fait sur le fait que c'est ça qui va faire que je décide d'appartenir ou pas. Je suis libre d'être dans le terrain ou de pas être dans le terrain, mais si je suis dans le terrain, on va jouer ensemble avec ces règles du jeu, et elles sont claires.
Ouais,
et
ça apporte. C'est une aventure qui est plus grande que moi. Donc qui est fondée sur le collectif. De toute façon, on fait rien tout seul, hein. C'est impensif. Mais cette aventure plus grande que moi, elle rejoint des choses profondément en moi qui me parlent.
Ouais. Et justement, toi, est-ce que tu peux nous parler de de ce qui t'anime et qui t'a amené à le transmettre d'une manière ou d'une autre au sein de Envie School ? Est-ce que tu peux nous parler un peu de la culture que vous avez mis en place, de votre raison d'être, comment ça s'exprime concrètement, parce que bon, il y a un côté école, mais il y a bien plus de choses.
Mais en fait, tu as raison. J'aime bien dire qu'on est l'école du futur of work, l'école du futur du travail, parce qu'on est à la fois, on a toute une activité auprès des indépendants ou futurs indépendants qui veulent se jeter dans le grand bain. de la création d'entreprises individuelles, solo, et puis aussi du côté des entreprises qui se transforment et qui ne peuvent pas se transformer sans des indépendants, tu le sais. Hein. Et donc, moi, il y a cette idée de transmission hyper forte au sein d'Envie. Moi, j'ai l'impression qu'après avoir été entrepreneur pendant longtemps, après avoir accompagné beaucoup de start-upers, investi dans beaucoup de boîtes, aujourd'hui, les fondements d'une entreprise, petite ou grande, qui dure, je crois que on a bien délimité, enfin, on a identifié les clés, voilà, des choses très simples et assez universelles qui font que ta boîte va marcher. Et donc, moi, ma raison d'être, notre raison d'être chez Envie, en tout cas, je vais parler plutôt de la partie des particuliers, c'est de les amener à créer, de structurer une société durablement rentable. On est obsédé avec la rentabilité. Et c'est pas simplement des compétences que l'on transmet, parce que ça, il y a des tonnes de gens qui vont le transmettre, et tant mieux, avec plus ou moins de bonheur. Mais ce qu'on transmet, ce qu'on injecte chez les gens, c'est l'énergie et la confiance. Alors ça, c'est, tu veux un shoot d'énergie, tu veux un shoot de confiance qui font de toi un entrepreneur qui réussit, une entrepreneur qui réussit, tu viens chez Envie.
Et ces valeurs, justement, je pense qu'effectivement, c'est souvent cette notion de confiance, elle est très importante quand on va être entrepreneur de soi. Et comment justement ça s'exprime concrètement au-delà des cours? Comment est-ce que cette énergie, elle se matérialise dans justement dans ce que vous avez mis en place, dans les rituels, dans...
Mais en fait, il y a pas mal de temps, tu vois, de moments ou de signes qu'on partage qui sont, je te donne quelques exemples, quand les gens nous rejoignent en formation, avant même la semaine qui précède leur rentrée, ils ont tous reçu une petite lettre manuscrite de notre part avec des petits mots pleins de peps qui les accueillent. Donc, ça donne le ton d'emblée. Quand on fait les rendez-vous de onboarding, parce que tout se passe en ligne, hein, c'est beaucoup plus pratique. Ouais. On n'est pas encore physique, je ne sais pas si on le sera un jour peut-être. Mais tu te présentes pas toi-même, tu présentes quelqu'un d'autre. Donc tu as été obligé de te connecter à l'autre pour savoir qui il est, qui elle est et le présenter. Il y a des coachings hebdomadaires de 15 minutes, très courts, très synthétiques, le lundi matin, qui s'appellent les Barba Boost. Faudrait que je t'envoie un lien pour que tu te connectes. Et donc, t'es là, quand tu intègres l'école et la communauté Envie, c'est en tant que giver. Ouais. J'arrive pas à le dire en français, je sais pas comment on peut trouver des mots. C'est toujours plus simple en anglais, hein, t'as remarqué.
En fait, l'anglais a la merveilleuse faculté d'avoir 500 000 mots contre, je crois, 100 000 à peu près dans la langue française. Donc, la langue française, on est obligé de jouer avec les mots, alors qu'en anglais, il y a un mot pour chaque chose. C'est pratique. Mais du coup, c'est effectivement, il y a moins de possibilités de jeu. Donc, si on... Peut-être pour rebondir sur cette partie justement giver et parler de cette solidarité, est-ce que tu peux nous parler un peu de la communauté au-delà de l'école?
Mais la communauté, tu peux la rejoindre sans avoir suivi une formation Envie. Tu t'abonnes, c'est un abonnement qui coûte 12 euros par mois et tu peux participer à des rencontres, des activités en ligne et en physique parce qu'on a de plus en plus de monde. On a 6500 personnes qui nous suivent dans la newsletter et une bonne partie d'entre eux qui sont dans la communauté, qui sont abonnés. Et donc, tu participes au Barba Boost, par exemple, dont je te parlais, le petit coaching de 15 minutes, le blitz coaching du lundi matin pour te donner la power patate toute la semaine. Tu as une fois par mois quatre indépendants qui pitchent devant un entrepreneur, une entrepreneur star, pas pour lever de l'argent, mais pour lever des conseils, pour aller récupérer des conseils sur le fond et la forme, tu vois. Donc, c'est un bon exercice, tu vois, de sentir le regard sur toi de quelqu'un que tu admires et que tu penses qu'elle a réussi. Je trouve que c'est redonner de la confiance en soi, ça passe par ça aussi. Il y a du codev chez Envie, on peut participer à des sessions de d'intelligence collective pour présenter sa problématique, sa préoccupation du moment. Il y a pas mal d'entraide, en fait. Les gens se posent des questions et répondent. Et puis après, tu as des rendez-vous physiques à Lyon, Paris, Bordeaux, Marseille, Nantes, qui s'organisent sans nous.
Les gens se sont rencontrés sur la plateforme et se retrouvent en physique. Et puis on fait le Grand Prix des indépendants un peu partout en France pour aller mettre le projecteur. Donc tu vois, on est encore en train de le construire. Hein, je t'en parle là, ça a un an un peu plus. C'est très très jeune, mais la communauté, je sens que tu le sais, hein, elle a un gros potentiel. Puis il y a plus de 4 millions d'indépendants en France.
Oui.
On a encore de la marge, hein, de progression. Oui.
Alors justement, un peu de prospective, hein, puisque en plus, tu as été étudié ça spécifiquement aux États-Unis. Le futur du travail, selon toi, justement, est-ce que c'est tout le monde entrepreneur de soi? Et dans ce cas, comment les entreprises, selon toi, vont évoluer, vont s'adapter à cette nouvelle donne?
Je pense qu'il y a un mouvement que tu as observé, bien sûr, hein, toi aussi, qu'il y a eu une accélération tendancielle après le Covid, une vraie aspiration à travailler autrement, une autre place du travail dans nos vies, un autre rôle, en fait, et pas simplement pour les jeunes générations. Et je me dis, est-ce que c'est la confiance dans le salariat qui se détricote, peut-être, tu vois? C'est vrai qu'il y a quand même une moindre sécurité qui est associée au statut salarial, hein. Et j'aime bien, c'est Laetitia Vito dans le bouquin que tu as sûrement lu, du labeur à l'ouvrage, où elle dit, le deal, sécurité versus subordination, il est devenu un peu asymétrique. Donc, c'est vrai qu'on entend parler, on voit ce sujet de démotivation dans les boîtes. Moi, ce que j'observe, c'est que forcément, les grandes entreprises sont nos clientes aussi, et on leur parle tous les jours, et je trouve que c'est assez low tempo. Tu vois, c'est cette petite flamme que nous, on a, même si on est crevé, même si c'est dur d'aller chercher des clients, mais cette motivation énorme, elle est là. Parfois, je la sens moins, tu vois, chez nos interlocuteurs. Donc oui, il y a une aspiration, je crois, à travailler autrement et avec plus d'autonomie et d'équilibre de vie. Et ça ne veut pas dire que tu vas le trouver que dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas du tout vrai. Mais néanmoins, comment l'entreprise va réussir demain à injecter, tu vois, dans la culture managériale, cette dimension un peu entreprenante. Tu vois, c'est pas entrepreneurial, hein. Il s'agit pas de faire des entrepreneurs à l'intérieur. Ça, j'y crois pas du tout. Mais c'est plutôt comment, en fait, on t'injecte cette capacité à décider et agir à la manière des entrepreneurs, donc avec un peu plus d'autonomie. Ça m'a l'air d'être un bon levier, quoi.
Et ça, justement, aujourd'hui, tu sais, on entend beaucoup, et nous, on le voit chez certains de nos clients. Bah, de toute façon, les gens veulent plus travailler. Les jeunes en particulier, ils sont désengagés, etc. Donc, selon toi, pour donner justement cette énergie, cette volonté d'être entreprenant, qu'est-ce qu'il faut activer comme levier en particulier?
Je ne sais pas si c'est vrai que les jeunes ne veulent pas travailler. Toi, tu as ce sentiment, tu vois, je ne sais pas trop.
J'ai ce retour.
J'ai une amie de New York là qui organisait chez moi la semaine dernière une rencontre qu'elle fait souvent chez elle aux États-Unis. Elle prend 20-30 jeunes d'une vingtaine d'années, puis elle fait intervenir 6-8 adultes, entrepreneurs ou pas, puis qui racontent leur parcours et surtout ce qu'ils ont appris et ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Et moi, ces jeunes là que j'ai rencontrés, ils m'ont donné énormément de patates, quoi. Je les ai trouvés plein d'envie, tu vois, furieusement désireux de se réaliser dans le boulot. Et avec beaucoup de questions, mais pas à se dire je m'en fous du boulot. Enfin, peut-être que c'est une tendance, mais je j'arrive pas à me dire que c'est à l'asséner comme une vérité pour beaucoup. Non, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses?
Alors, c'est vrai que moi, je me fais plutôt l'écho d'entreprises qui nous ont dit, voilà, on n'arrive plus à recruter, ou les jeunes qu'on recrute, ils font du 9h-17h, si on leur dit pour le moindre truc qu'on a besoin d'eux un peu plus tard, personne n'est là, c'est vraiment, ils font le minimum vital, ils sont pas du tout engagés. Donc, ce qui est intéressant, c'est que moi, là où je te rejoins, je pense que les jeunes, comme tout jeune à chaque génération, ont énormément d'énergie, d'envie, donc, qu'est-ce qui, selon toi, quel levier on peut activer dans les entreprises pour redonner de l'envie, redonner cette énergie?
Mais En fait, j'ai l'impression, moi, si tu veux, je le vois à ma petite échelle, on a une toute petite boîte, mais on recrute aussi des jeunes, des stagiaires. Et ceux qu'on garde, c'est ceux qui ont cette petite flamme à l'intérieur. Ils sont motivés. Ils ont envie de faire, ils ont envie de faire des efforts, ils ont envie d'apprendre, ils ont envie de donner, ils ont envie de faire plus que ce qu'on leur a demandé. Et ça, c'est parce que quand on leur parle du projet en vie, de ce qu'on veut faire, de notre ambition, de la façon dont on veut prendre soin des gens, ben, ça leur parle, tu vois. Et il me semble que ce moteur-là, il n'appartient qu'à toi. C'est j'ai envie, c'est une question de désir profond.
Sur la partie effectivement engagement, désengagement, c'est comment est-ce que on partage justement cette flamme, cette envie. Tu disais nous on a un projet qui est chouette et du coup les gens ils sont sensibles. Voilà, quels sont les moyens de donner envie, d'avoir envie.
En fait, ça me fait penser à ta question. On a fait travailler des chercheurs en neurosciences pour essayer d'identifier qu'est-ce qui faisait la fibre entrepreneuriale. Qu'est-ce qui faisait, est-ce que si on devait dire qu'est-ce qui caractérise un entrepreneur, eh bien, décrivez-le et est-ce qu'on peut être cela dans l'entreprise? Et au-delà des compétences, qui sont un sujet un peu à part, mais qui se musclent et qu'il faut évidemment travailler toute la vie, parce que c'est pas un stock, c'est un flux. Mais ce qui caractérise profondément les entrepreneurs, finalement, c'est un, la motivation, c'est ta envie, ce que ce projet qu'on me confie, auquel je participe, il me plaît, il me parle. Je veux avoir partie liée, je veux en voir les fruits. Donc c'est ce petit moteur en soi, et ça que personne d'autre que toi ne peut générer. Mmh. Et puis il y a l'entourage. Tu vois, les gens autour de toi qui te stimulent, qui t'épaulent, qui te challengent, qui te motivent, qui sont le miroir de tes actions. Enfin, et donc ça, peut-être que sûrement en entreprise, tu trouves des gens comme ça dans des grandes boîtes. Quand c'est ton aventure entrepreneuriale, ton projet, peut-être que c'est accru par rapport aux plus grosses boîtes, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a quatre dimensions, mais les neuroscientifiques ont dit, voilà, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a vraiment ce petit moteur, cette flamme, cette motivation très forte, et puis qui a des ressources, notamment extrinsèques, l'entourage. Et ça joue beaucoup dans le fait d'avoir envie de t'investir.
Oui, donc effectivement, c'est intéressant. Ça veut dire que pour les entreprises, il y a effectivement des leviers à activer pour créer ce fameux entourage de personnes qui sont motivantes, pour créer ces projets enthousiasmants qui parlent aux gens, pour générer ce désir, cette envie. Oui.
Bien sûr. Et puis, là, une autre chose qui était dans ce volet des compétences, c'est une entreprise qui m'aide à me déployer, à apprendre, à grandir, qui investit sur moi, sur mon talent. Bien sûr que ça me lie à elle. Tu vois, je pense qu'il y a cette dimension de formation continue qui est très, très importante.
Ouais. Et tu parlais au début de notre entretien de cette notion d'expérience, cette notion de lien. De moments de partage et tu parles régulièrement d'amour. Comment est-ce que ça, justement, ça peut se développer au sein d'une équipe, d'une entreprise? Peut-être comment vous le mettez en œuvre, déjà rien qu'à votre échelle, dans votre équipe dans V-School?
C'est peut-être plus simple dans une petite entreprise, parce que tu es proche du fondateur, de la fondatrice, et qu'il n'y a pas cette idée de « je dois endosser un costume » ou « ma fonction dépasse ma personne humaine quand j'arrive dans la boîte ». Moi, je travaille avec mes amis, des amis du cœur, et ce sont les mêmes en dehors du boulot et quand on est en train de travailler. Et cet état d'esprit de transparence est toujours là. Il me semble que dans une plus grande entreprise, parce que le regard des autres importe plus, parce qu'il y a cette idée de statut et on se drape dans quelque chose, on est un peu moins soi-même. Donc, c'est peut-être plus difficile, tu vois, parce qu'il y a un rôle social, c'est un peu la comédie humaine quelque part. Hein. Mais comment est-ce que j'arrive dans une grande entreprise à être pleinement moi-même, à montrer qui je suis? Enfin, est-ce que c'est possible d'ailleurs? J'en sais rien. J'ai jamais travaillé dans une grande entreprise. Sinon, avec une casquette d'administratrice ou en conseil, tu vois, mais. Je pense que ça, c'est une donne qu'il faut pas sous-estimer. Et qu'est-ce qui fait que tu te sens capable de te montrer tel que tu es? C'est que tu as travaillé ta confiance en toi. J'ai confiance en moi, je suis conscient de ma valeur et je n'ai pas peur finalement du regard de l'autre. Donc, il y a un travail là-dessus, je pense.
Si, je travaillerais volontiers la confiance. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait chez Envie. On fait des formations pour la confiance des managers.
Du coup, pour des managers également dans les grandes entreprises.
Ouais, c'est ça. Confiance et énergie, en fait. Tu vois, pour donner justement ce niveau d'énergie, parce qu'il en faut, purée, pour se réinventer. Il en faut de l'énergie pour bouger les lignes de sa boîte, pour ramener les gens dans un projet commun, parce qu'on a quand même tous un peu un sentiment d'effondrement imminent, hein. Je sais pas si tu l'as aussi, mais j'ai l'impression que c'est un peu la fin d'un monde qui arrive. Il y en a peut-être un nouveau qui nous attend et c'est chouette. Ça tombe bien, on est en train de le construire. Mais quand même, il y a plein de signaux d'effondrement, donc je comprends les plus jeunes, tu vois, qui sont là. Bon, donc il faut de l'énergie pour leur montrer que il y a aussi de belles choses.
Hein. Ouais. Et si on rebondit justement sur la notion de monde qui s'écroule, nouveau monde qui arrive, et si on revient à la culture, selon toi, justement, c'est quelle culture d'entreprise faut développer pour pouvoir répondre à ce besoin de transformation imminente? Qu'est-ce que toi, tu as pu voir?
Une entreprise utile, non? Une entreprise dans laquelle j'ai le sentiment que je participe à réparer quelque chose ou à construire quelque chose de plus positif, tu vois? Où il y a une dimension sociale, autour de la santé, autour de l'environnement, autour de choses qui sont, c'est pas simplement, mais on le dit. Enfin, bien sûr qu'une entreprise est là pour générer du profit, hein. On est bien d'accord qu'il n'y a pas que de la poésie, hein. Il y a des mathématiques dans l'entreprise. Mais c'est qu'est-ce qu'il y a au-delà, tu vois? Je prends du temps, ça me prend un temps fou de travailler, c'est pas ma boîte en plus. Donc, qu'est-ce qui va faire que je viens? J'ai ce sentiment d'être, j'apporte ma pierre. Peut-être aussi de mesurer. Ça aussi, c'est quelque chose que j'aime dans l'entrepreneuriat, c'est que tu mesures assez vite le fruit de ce que tu as fait, tu vois. Quelque chose que t'as pas fait, qui est perdu, c'est perdu. T'as pas mené cette action, c'est pas fait. Si tu as pris un projet pleinement et tu l'as amené à son terme et ça a eu des résultats, tu peux les mesurer et tu vois ce que t'as accompli. C'est incroyablement satisfaisant. Est-ce que tu peux avoir dans une très grande masse, t'as peut-être moins un sentiment plus diffus? Donc oui. Ramener les projets à des plus petites échelles, mais
voir le fruit de ces actions.
En même temps, tu vois, en même temps chez Renault, que je connais un peu mieux de l'intérieur, je vois à quel point on peut aussi animer des gens sur une renaissance en disant on est en train de se transformer, on quitte le thermique, on va vers l'électrique, on est en train d'essayer d'inventer la mobilité du futur. Et on a tous envie de participer à ces choses nouvelles, à se sentir un peu explorateur. Et ça marche. Ouais. Hein.
Donc justement, par rapport à ça, pour toi, quel est aujourd'hui, avec ces notions de raison d'être, de ESG, d'impact positif, quel est le rôle de l'entreprise dans la société?
Alors l'entreprise, quand tu parles d'entreprise, il y a la grande, la petite, tu penses à quelle entreprise quand tu dis ce mot?
Là, je parlais plutôt... Bon, on va dire oui, moyenne grande entreprise. La petite, c'est plus simple parce que, comme tu le dis, on voit le fruit directement de son travail, il y a un lien un peu plus direct. Mais si on prend des plus grosses entreprises, justement, tu parles de Renault, etc. Quel rôle ils ont à jouer au-delà de, on apporte un service et on maintient la rentabilité, ce qui est effectivement nécessaire.
Non, mais énorme, évidemment. Enfin, en plus, elles ont une capacité transformante énorme. Enfin, je veux dire, c'est vrai que quand tu as plus de 100 000 personnes qui travaillent pour toi, si tu les mobilises tous dans la même direction, for good, ça peut avoir un effet extraordinaire. Ouais, donc, je pense que l'entreprise, ça peut être un lieu, tu vois, de réalisation, mais surtout les grandes entreprises. Après, moi, celles que je connais, je saurais pas te dire quelles sont celles qui ont une posture, qui communiquent sur des choses, et puis qu'est-ce qui se passe véritablement. On n'en sait rien. On n'apprend rien quand on lit la presse. Hein. C'est quand tu ne sais vraiment ce qui se passe que de l'intérieur, et encore, c'est assez fascinant, en fait. Mais non, bien sûr que l'entreprise a un rôle extrêmement important. Mais c'est difficile parce qu'il y a une énorme défiance à l'endroit des grandes organisations aujourd'hui. Tout ce qui est grande entreprise, tu vois, les syndicats, les partis politiques, l'État, enfin tout ça, on a plutôt tendance à donner sa confiance à ce qui est proche et petit et court. C'est pas évident. Il faut retrouver une authenticité, mais ça passe beaucoup par les gens, tu vois. Par des patrons qui parlent vrai, qui sont des visionnaires, des vrais capitaines de navire, et qui embarquent authentiquement les gens, quoi.
Et oui. Et justement, si tu devais, toi, faire passer un message à ces dirigeants qui peut-être ont peur de faire ce pas vers l'authenticité, ou vers assumer aussi une culture d'entreprise engagée, qu'est-ce que tu leur dirais?
Je ne sais pas si ils en ont véritablement peur. Je pense qu'on est plutôt, il y a plutôt la dictature du temps court, surtout quand on est une entreprise cotée. Tu vois, on est vraiment tout ceci est très joli, mais en réalité, il faut quand même cracher du résultat à court terme parce que c'est là-dessus qu'on est rémunéré, c'est là-dessus qu'on est jugé par ses pairs. Et donc, j'aime bien les patrons qui voient loin, quoi, qui regardent sur le temps long. Et ça, c'est plutôt l'apanage des sociétés non cotées ou familiales. C'est une chance, en fait. Dans les sociétés cotées, purée, ça doit être tellement difficile. Donc, je pense que c'est juste, le message, je travaille avec pas mal de CEO et de Comex, c'est travailler. Tu sais, cette confiance à tous les étages, quoi. Faire en sorte que les gens élargissent leur couloir de nage et qu'ils arrivent à porter des actions, tu vois, en disant, voilà, nous, la direction, elle va vers là. Voilà, notre ambition, elle est hyper claire. On va là, on veut devenir cela. Maintenant, dans le comment, on vous laisse un peu plus de marge de manœuvre. Proposez-nous des choses. Tu sais, c'est le fameux empowerment intraduisible, d'ailleurs, en français.
Ouais, encore une fois.
Et donc, j'avais rencontré une Américaine, une patronne que j'adore, qui avait dit, si tu veux vraiment transformer une entreprise et recréer du lien et souder les gens, c'est trois mots magiques, c'est inspire, empower, incent. Donc, c'est d'abord, dis ce que tu fais, parce que c'est pas mal, hein, ça marche bien aussi. Donc, sois toi-même un patron exemplaire, tu vois, si tu prônes des valeurs de justice sociale ou de respect de la planète, ben, sois quand même balaye devant ta porte, sois le premier à les porter. Empower, c'est donne la capacité aux gens qui travaillent avec toi d'abaisser le centre de gravité de l'entreprise pour qu'ils portent cette dynamique de transformation. Le max de personnes portent la dynamique de transformation. Et donc, pour ça, tu leur laisses plus de marge de manœuvre et d'autonomie. Donc, vient la question de l'échec possible, mais ça, c'est un autre sujet. Et puis, incent, hein, c'est comment est-ce que tu rémunères la prise de risque, comment est-ce que tu l'encourages. Et bon, si c'était si simple, ça serait fait aussi.
Là encore, hein, comme tu le dis, il y a un travail sur soi à faire d'abord et avant tout, hein, pour pouvoir réussir à lâcher prise sur la partie empower, à faire ce travail d'authenticité et d'exemplarité. Et là, effectivement, c'est pas forcément... C'est un long chemin.
Oui, il y a les sociétés du groupe ADO, j'adore, moi. Je trouve qu'il y a un bel état d'esprit, tu vois. Si j'étais salariée dans l'âme, j'irais bosser chez Leroy Merlin, Decathlon, qui habite à l'œil. J'adore ces boîtes parce que je trouve que d'abord, on y est un peu en famille. Les gens sont assez eux-mêmes. Et puis, il y a cette idée d'embarquer tout le monde. Tu vois, on co-construit la culture, on écoute beaucoup les gens, il y a beaucoup de feedback et on écoute beaucoup les clients. Je trouve que c'est une belle culture. Hein.
Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi et ils font effectivement partie de nos modèles qu'on cite souvent sur des entreprises qui ont réussi à une grande échelle à mettre en place et à vraiment incarner des cultures fortes.
Exactement. Chez Mazar aussi, avec qui je travaille beaucoup en ce moment, je trouve qu'il y a une vraie belle dynamique. Ils sont dans l'innovation RH à fond. Ils sont en train de se dire que si on veut attirer les meilleurs et pas les deuxièmes couteaux du conseil, eh ben, c'est pas mal de proposer aux gens de dire si tu viens chez nous, tu peux avoir ton side project, tu peux développer ta propre boîte parce que, comme dit le proverbe chinois, il faut laisser la cage ouverte pour que l'oiseau revienne. Et donc, si tu as la possibilité, tu vois, de te réaliser autrement que dans un boulot qui est une entreprise que tu n'as pas fait toi-même, bah, on sait bien, ça, c'est peut-être un gage, ça, cette permaculture d'entreprise, ils y croient et ils l'encouragent. Il y a une charte, ils ont changé les contrats de travail. Enfin, je trouve qu'il y a plein d'innovations RH en ce moment.
Super intéressant.
Et c'est ça qu'on traque avec envie. Ouais.
Ouais. Et du coup, justement, pour reboucler sur ces entreprises inspirante pour toi, donc là, sur la partie, pour terminer sur le note positif sur l'effondrement potentiel, pour toi, justement, ces entreprises, elles représentent le futur souhaitable?
Ben, en fait, pour moi, le futur souhaitable, c'est un futur où on se donne la chance de tester
tu vois, de tester autre chose, de faire un pas de côté, de se dire je suis pas sûre d'y croire mais je vais quand même aller l'essayer, c'est très entrepreneurial comme démarche en fait. Et donc je pense que le sujet du futur du travail, il ne s'aborde que sous l'angle de la pratique. On en revient à ta première question, hein, de l'expérience et du collectif. Moi, c'est mes deux mots-clés. Hein, je suis sûre que ça te parle, Hélène. Et donc, je me dis, aujourd'hui, c'est pour ça nous, on a créé un do tank. C'est pas un think tank. C'est un collectif d'action avec pas mal d'entreprises et on espère en accueillir beaucoup d'autres dans les mois et les années à venir. C'est le futur du travail dans toutes ses composantes. Bah, il faut pas le regarder ou y penser. Il faut l'expérimenter. Hein. Moi, j'aime bien dire, ça fait 30 ans que je regarde Roland Garros. Je n'ai pas progressé au tennis. En revanche, sur la transformation des entreprises ou même de la mienne, je l'ai fait et c'est là comme ça que j'ai appris. Donc je crois que ça s'expérimente collectivement.
Et alors peut-être justement pour reboucler hein, une dernière fois sur Envie School, si tu devais donner un message pour le coup là à des personnes qui de la même manière se posent la question de est-ce que je dois continuer mon travail salarié ou sauter le pas pour devenir indépendant. Est-ce que ce serait la même chose, tu leur dirais de tester.
Je pense qu'il faut être très pragmatique dans la vie. Il ne faut jamais lâcher la proie pour l'ombre. Hein. À moins d'avoir gagné au loto, auquel cas tu peux tout lâcher et puis tester des boîtes. Et si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. En revanche, si tu as un loyer à payer, tu as quelques charges, mieux vaut garder ton salaire, car c'est très confortable d'avoir un salaire. C'est chouette. En revanche, si tu arrives à bien organiser, en utilisant l'IA notamment, et puis ça te fait gagner un temps fou, peut-être que tu peux commencer à côté un projet entrepreneurial qui te tient à cœur, qui te donne du sens, qui te semble utile et aligné avec ce que tu sais bien faire. Et puis, tu vas regarder si ça correspond à un besoin, un truc pour lequel des entreprises ou des individus seraient prêts à payer, et peut-être qu'il y a un modèle économique, et peut-être que tu sais aller chercher des clients. Enfin, en fait, il faut y aller pas à pas, hein, je pense. Et puis à un moment, tu te dis, ah, c'est ça, c'est mon histoire et j'y vais et puis je vais pouvoir en vivre. Mais pour le faire, il faut être hyper entouré, quoi. Il faut être bien entouré.
Super.
D'entrepreneur, quoi, pas d'expert, un entrepreneur.
Eh oui, c'est ça, d'avoir cette énergie et puis, comme tu le disais, cet entourage qui va soutenir, qui va permettre de grandir, qui va motiver.
Ben oui, c'est ça, tu le vois toi-même, hein, c'est ça la clé en fait. Et puis des gens qui ont fait le chemin avant toi, tu gagnes un temps fou, tu vois,
quelqu'un
qui va te dire, voilà, là c'est pas prêt, t'arrives pas à faire ça, mais c'est normal, tout va bien. Et donc ça détend tellement, ça déculpabilise tellement, on se met une telle pression en fait tous, hein. Oh, c'est fou, c'est fou parce que c'est quand même que du boulot au final, hein. Non, mais tu vois, quand tu traverses, moi je vois autour de moi des amis proches à qui il arrive des pépins de santé, des choses vraiment tristes et vraiment graves. Et à un moment, tu prends un recul quand même, tu te dis, bon, effectivement, tout ceci, et même l'innovation. Moi, j'ai toujours beaucoup de distance, tu vois, par rapport à. J'oublie jamais que je vais mourir, en fait. Et j'oublie jamais que tout ceci est très éphémère. Et donc, ça permet aussi de se dire, de garder une distance. Hein.
Bien sûr, de prendre.
Et c'est une bonne chose.
Un peu de recul, bien sûr. Bah, quand on voit toutes les personnes qui, parce qu'elles s'abîment dans les deux sens du terme, dans le travail, terminent en burn-out, en n'ayant pas justement
qui te tombent dessus, une tumeur au cerveau, que tu n'avais pas anticipé, et bum, il y a encore deux jours, tout allait bien, et puis tout d'un coup, bah, tu te rends compte que ta vie bascule. Et ça, ça arrive, et ça arrive sûrement aux gens qui nous écoutent et autour d'eux. Et donc, je me dis, ça fait partie du chemin. Donc, tout ce qu'on fait dans le boulot, faisons-le avec cœur, parce que sinon, on ne fait rien. Bien sûr que c'est aligné avec ce qu'on veut réaliser, mais ce n'est que du boulot.
Merci pour ces mots que je crois qu'il sera difficile d'en dire plus, même si on pourrait rester des heures à t'écouter.
Je crois merci à toi.
On a vraiment touché quelque chose de profond. Je retiens effectivement cette notion de l'importance de s'entourer, l'importance de l'expérience et effectivement de considérer son travail comme une expérience, même si ça doit pas être le centre de notre vie. C'est important de cultiver cette flamme et de trouver vraiment, comme tu disais, ce qui nous anime, ce qui est notre désir profond et de travailler surtout, je retiens ce mot que tu disais, de la confiance à tous les étages. Merci beaucoup Catherine.
Merci Hélène, merci bien. À bientôt, j'espère.
À bientôt.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss, à votre ami qui veut monter une start-up depuis toujours, ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture entreprise. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast. Et vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles de préférence sur Apple Podcasts. À très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous.